Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bienvenue au Balado Urbania.
Bonjour Christophe Magnette. Tu es thérapeute en relation d'aide et on se parle aujourd'hui dans le cadre de la sortie de la série Polyamour qui est produite par Urbania et qui va être diffusée à partir du 26 juillet à 20h30 à UniTV tout bientôt. C'est toi qui as initié ce projet-là à la base. Pourquoi tu as voulu créer une série sur le polyamour?
Je pense qu'une des raisons pour laquelle j'avais envie de lancer ce projet-là, c'est que quand, dans ma clientèle en thérapie, j'ai souvent des gens qui se questionnent sur leur modèle amoureux. Puis qui se rendent compte que le polyamour, c'est quelque chose qui existe, qui a été réfléchi, il y a des livres là-dessus, il y a des gens qui le vivent, mais souvent ils le découvrent tard, puis ils se rendaient pas compte que ça pouvait être une option possible. Donc c'est des gens qui peuvent être dans des schémas, ce qu'on appelle la monogamie en série, donc qui enchaînent les relations en ayant peut-être toujours un manque de se retrouver dans quelque chose qui leur ressemble pas nécessairement. Puis quand ils découvrent ça, ça peut être à 30, 40 ou voire 50 ans, même plus. J'ai eu récemment un couple qu'ils avaient dans la soixantaine. Mais c'est comme toute une découverte. Et je me suis dit que cette série-là, qui s'adresse vraiment à monsieur et madame tout le monde, ce serait une manière de banaliser ça, puis de montrer que c'est un schéma qui existe, un schéma de relation qui existe. Pas nécessairement pour dire que c'est le meilleur, qu'il est meilleur que la monogamie ou qu'autre chose, mais que juste c'est une possibilité, il y a moyen de le faire bien... et qu'il y a plein de gens qui vivent ça.
Mmh, et que c'est un schéma qui est valide aussi.
Mmh, ouais. C'est ça. Il peut y avoir beaucoup de jugements là-dessus, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de questionnements, de déclencheurs, de malaise. Puis cette série-là, elle est là pour montrer que c'est quelque chose que des gens vivent. Il y a vraiment un panel de plein de gens différents, avec des défis, mais qu'il y a aussi beaucoup de défis dans les relations monogames. Donc il y a des défis dans le polyamour, bien entendu. Mais il y a aussi plein de belles choses, puis c'est ça qu'on voulait montrer.
Mm-hmm. J'ai regardé les 4 premiers épisodes. Quelque chose que j'ai trouvé vraiment frappant, c'est la variété de modèles auxquels on assiste. Il n'y a pas un seul modèle de polyamour. Quelle forme ça peut prendre, le polyamour?
Ça prend toutes les formes qu'on veut lui donner, je pense. L'essentiel, en fait, ce qui rassemble tous ces gens-là, c'est de le faire de manière éthique, puis... transparente, puis que ce soit discuté et consenti par toutes les personnes qui sont là-dedans. Après, effectivement, il y a plein de manières. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques parce qu'il y en a, mais
il y en a beaucoup.
On risque de perdre tout le monde. D'ailleurs, on n'en utilise pas tant dans la série. On a vraiment voulu quelque chose de très compréhensible par monsieur et madame tout le monde. On ne voulait pas aller dans le jargon. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui vivent en polyamour sous le même toit. Il y a des gens qui décident de ne pas vivre du tout avec leur partenaire. Il y a des gens qui vivent des relations où plusieurs personnes sont en relation. Il y a plein de manières de le vivre. En fait, chacun décide et crée un peu le type de relation qui lui correspond.
On entend souvent qu'il y a presque autant de modèles qu'il y a de personnes.
C'est clair.
Et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit très, très bien dans la série. Comme tu dis, il y a des gens qui ont un partenaire principal et qui ont d'autres partenaires à côté. Il y en a même qui ont des familles. Donc, on a vraiment accès à tous ces modèles-là. Selon toi, pourquoi c'est important de présenter ces modèles-là, ces familles-là, ces couples-là?
Et c'est ça, c'est qu'on voulait vraiment montrer que c'était quelque chose qui pouvait vraiment être vécu par plein de gens différents.
Ouais.
Donc on voulait avoir des gens avec des enfants, on voulait avoir des gens sans enfants, des gens plus jeunes, des gens plus vieux. Parce que justement, il y a plein de préjugés, il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, c'est... tu vis ça parce que tu es dans ta jeunesse, puis quand tu seras mature, c'est une phase, quand tu seras mature, tu vas retourner à un modèle plus traditionnel. Donc il y a des gens qui ne croient pas à ça, ou des gens qui disent le polyamour c'est ok tant que tu n'as pas d'enfant, mais après c'est beaucoup trop compliqué, alors que non, il y a vraiment des gens de plein de milieux différents, de plein de backgrounds différents, de plein d'orientations, de plein de choses. On a essayé de le montrer le plus possible. C'était pas toujours évident.
Il y avait
des résistances. Par exemple, le côté famille, ça a été vraiment le truc le plus dur à amener. Parce que c'est pas seulement les adultes qui sont mis de l'avant, c'est aussi les enfants. Donc là, il peut y avoir les préjugés, ils peuvent avoir la vie dure, donc à l'école, etc., etc. Donc ça a été vraiment le truc le plus dur à avoir, d'avoir des parents. On a réussi à en avoir. On était très contents de ça. Donc, on a vraiment essayé de montrer le plus de variété possible. Il y a sûrement des choses qu'on aurait pu montrer qu'on n'a pas montré, mais on avait juste 6 épisodes.
Tu dis « on » parce que tu participes aussi à l'écriture du scénario et à la recherche. Donc, tu as vraiment eu les deux mains dans le projet.
Oui, c'est ça. En fait, j'avais un peu plusieurs casquettes là-dedans. Le fait que j'avais initié le projet, mais qu'en même temps, je suis moi-même polyamoureux et thérapeute en relation d'aide avec... J'aime pas dire que j'ai une spécialisation là-dedans parce que c'est pas du tout le cas, je me présente pas du tout comme un spécialiste, mais avec la force des choses, avec mon expérience, avec différentes choses, j'en arrive à avoir de plus en plus de clientèle qui est intéressée par la non-monogamie éthique, on va dire.
Ouais.
Plein de modèles différents, couple ouvert, etc. Et par ces expériences-là, j'étais amené à peut-être comprendre mieux ces gens-là, mais aussi à avoir des portes ouvertes dans la communauté, à avoir une crédibilité aussi, parce que c'est pas toujours évident de montrer la communauté si c'est quelqu'un qui est en dehors de ça, qui comprend pas bien. Le risque peut être de véhiculer les clichés qui sont déjà présents dans la société. Donc c'était assez logique que je fasse la recherche. Puis ça m'a amené à rencontrer plein de gens, aussi à amener des gens que je connaissais déjà, c'était assez logique. Après, participer au scénario, ça s'est fait aussi on the spot, là, en travaillant avec l'équipe d'Urbania. Puis au final, ça a avéré que c'était pertinent que je rentre dans la série, c'était pas prévu au départ.
Tu veux dire d'être à l'écran, vraiment,
ouais.
Parce que t'es un des personnages de la série, on te voit en séance de thérapie. Personnellement, c'est des scènes que j'ai trouvées extrêmement fortes d'avoir accès à ça. C'est peut-être mon côté un peu voyeuse, mais moi, le fait de rentrer dans ton bureau et de t'entendre en interaction avec des patients, patientes, pourquoi est-ce que vous avez voulu aller aussi loin en montrant ces scènes-là?
Pour être honnête, moi, c'était le côté où j'avais le plus de réserves, parce que pour plein de choses, d'abord, en tant que thérapeute, on a une certaine éthique, donc ouvrir la porte de quelque chose qui est réservé au côté intime.
Au secret professionnel.
Exactement,
aussi.
Il y avait plein de questionnements que j'avais là-dedans. Il y a aussi de plus en plus de séries qui amènent ce côté thérapie. Je ne voulais pas aller dans quelque chose de voyeur, je me demandais si c'était pertinent. Mais on ne va pas se le cacher, les gens qui sont polyamoureux, ils vivent plein de défis.
Ouais.
Puis c'est des gens qui ont souvent le courage, la force de travailler sur leur déclencheur, sur leurs émotions, etc. Donc, qui vont beaucoup en thérapie. Puis si j'ai envie de leur lever mon chapeau, c'est quelque chose que beaucoup de gens devraient faire, idéalement tout le monde.
Absolument.
Mais dans la communauté polyamoureuse, c'est vraiment quelque chose de très banalisé, qui est très normal, parce que c'est normal de vivre des déclencheurs. Les gens qui arrivent en thérapie dans mon bureau, aussi bien en couple qu'en tant que personne individuelle, qui me disent « j'ai envie de me lancer là-dedans, je pense que c'est fait pour moi, est-ce que c'est facile ?» Je leur dis souvent « si vous pensez que ça va être juste facile, réfléchissez deux fois, parce que oui, il va y avoir des confrontations, c'est un modèle qu'on voit pas, on nous a pas montré ça habituellement dans les médias, dans les œuvres culturelles, les livres, etc. Donc il y a beaucoup de choses à déconstruire. Et donc dans la discussion, dans la construction du scénario avec l'équipe, à un moment ils m'ont dit ben on pense que ce serait vraiment important et intéressant d'avoir des scènes de thérapie. Comme elle ne prenait pas non plus toute la place, ça devenait effectivement pertinent pour montrer des choses. Puis à ce moment-là, on m'a dit ce serait quand même plus logique ce serait tellement logique que ce soit toi plutôt que quelqu'un d'autre. Puis je me suis dit, OK, ça m'a pris quand même quelques jours de réflexion, de regarder comment je me sentais à l'aise avec ça. Bien entendu, ce n'est pas mes clients à moi. Ouais. C'est des gens qui voulaient vraiment, qui étaient vraiment prêts à être filmés, à ouvrir cette intimité-là. Puis d'ailleurs, c'est, y a, effectivement, il y a des super belles scènes, des gens très, très courageux qui étaient prêts à... Il y a vraiment un côté mission comme ça de se dire, ils ne faisaient pas pour eux, ben, un peu oui, mais beaucoup plus pour montrer que c'est des émotions comme la jalousie. Il y a l'épisode de la jalousie,
exact.
Une scène très forte.
Une scène très forte où on a cette femme qui parle du fait qu'elle ressent de la jalousie par rapport à une partenaire spécifique que son conjoint a. Je ne veux pas trop en dire, mais c'est hyper challengeant. Ce qu'elle raconte. Et ça, justement, parlons-en de ce sujet-là, de la jalousie, parce que quand on pense à polyamour, on va très rapidement se dire, mais c'est sûr que la jalousie doit être absolument incontrôlable. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
C'est sûr que c'est le truc, en général, quand quelqu'un apprend qu'on est polyamoureux, c'est toujours le truc qui vient tout de suite, c'est « Oh, moi, je pourrais pas, je serais beaucoup trop jaloux. Comment tu fais pour pas être jaloux, etc. » Donc du coup, ça crée aussi plein de mythes, plein de choses difficiles à dépasser parce qu'on peut parfois croire que, par exemple, si on est polyamoureux, on n'est pas jaloux. Alors qu'en fait, il y a toujours des moments où on va être confronté à ça. Puis la jalousie, ça peut être tellement de choses différentes.
Ouais.
Cet exemple-là, par exemple, avec Geneviève, la fille qu'on voit dans cet épisode sur la jalousie, il est super intéressant parce que elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est en relation polyamoureuse depuis au moins 5 ans, je pense. Sans avoir jamais vécu de choses qui s'apparentent à de la jalousie. Et puis là, dans ce cas précis, elle en ressent. Et donc, ça prend tout un travail aussi d'admettre qu'on ressent ça, d'accepter qu'on sent ça, puis de nommer, de travailler, d'aller regarder pourquoi on le ressent. Et ça, la thérapie, ça aide à faire ça. Donc, elle soit prête à elle me l'a dit. Elle a dit, moi, c'était vraiment pour montrer que
qu'on peut ressentir de la jalousie. Ouais. Il y a un terme... Peut-être pour les personnes qui sont plus familières avec ça, il y a le terme compersion, qui n'est pas nommé dans le documentaire, mais certaines personnes le décrivent comme l'opposé de la jalousie. C'est pas exactement
c'est un peu
ça, mais c'est le fait de ressentir de la joie ou du bonheur lorsque son partenaire ou sa partenaire vit une relation satisfaisante avec quelqu'un d'autre.
Oui, c'est ça. On ne l'a pas nommé dans la série parce qu'encore une fois, c'était peut-être un peu trop jargon, mais par contre, on le voit beaucoup. C'est vraiment le fait de se réjouir pour notre partenaire qui vit des choses avec d'autres personnes. Ça peut, dans le cadre très large, ça peut être, t'as reçu une promotion à ton travail, une augmentation, je ressens de la joie pour toi, c'est aussi une forme de compersion. Mais dans le cadre des relations amoureuses, c'est vraiment ça, de se dire, mon partenaire a rencontré quelqu'un, il vit quelque chose de beau, je suis content pour lui. C'est un peu un graal dans le polyamour de se dire, atteindre ça, c'est comme l'idéal. C'est pas non plus une obligation, on peut très bien vivre des relations polyamoureuses où on est juste correct avec ça, puis on n'a pas besoin de ressentir la compersion absolument.
Ouais.
Parfois, ça arrive aussi sur le tard, peu importe. Mais effectivement, ça peut être vu comme l'inverse de la jalousie.
Il y a une autre scène de thérapie que j'ai trouvée vraiment bouleversante aussi. C'est cette femme qui confie qu'elle a des enjeux juridiques liés à ses enfants aussi. Ça aussi, c'est probablement quelque chose auquel les gens pensent quand on parle de polyamour et de famille. C'est qu'est-ce qui arrive avec les enfants. Donc, ça peut créer aussi des enjeux qui vont jusqu'à se rendre en cour ou des enjeux juridiques.
Ça va justement dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, que c'était difficile pour nous d'avoir des parents, des familles. Cette personne-là, par exemple, au début voulait être dans la série, mais finalement, avec ses enfants, mais finalement, il y avait des problèmes avec son ex-partenaire. Et finalement, on a eu l'idée de l'amener, on ne l'identifie pas.
Oui, elle reste anonyme, cette personne,
on
ne voit pas son visage.
Parce que justement, elle a vécu beaucoup de discriminations qui l'ont amenée à devoir se défendre en cours pour prouver que ce qu'elle faisait, c'était respectueux des enfants, c'était éthique, c'était pas... Ça ne pouvait pas leur nuire. Mais effectivement, c'est assez touchant, même si on ne la reconnaît pas. C'est touchant de voir toutes les épreuves qu'elle a dû traverser pour juste prouver qu'elle fait les bonnes choses pour ses enfants, qu'elle vit des relations qui sont, qui sont belles, mais qui aussi ne mélangent pas l'intimité qu'elle vit avec des personnes, avec sa vie de famille, comme n'importe quelle personne monogame de toute façon.
Exactement, exactement. Un autre cliché qui est évoqué, je crois que c'est la personne Juliette, mm-hmm. qui dit qu'elle reçoit souvent la vision comme quoi les personnes polyamoureuses, c'est des personnes obsédées qui veulent coucher avec absolument tout ce qui bouge. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Est-ce que c'est vrai, premièrement?
Est-ce que c'est vrai qu'on couche avec tout ce qui bouge? Je ne répondrai
évidemment,
pas à cette question.
Évidemment, je fais une blague.
Non, mais en fait, c'est justement un des clichés qu'on voulait déconstruire dans la série. Ça a été aussi un questionnement de se dire, est-ce qu'on parle de sexualité? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on fait un épisode là-dessus? Ça peut être un sujet sensible dans les communautés polies de se dire... si on est identifié à la sexualité, on va être vu comme quelque chose qu'on veut pas, avec lequel on ne veut pas être associé. Mais d'un autre côté, quand on a des relations, il y a souvent de la sexualité, donc on voulait quand même l'aborder. Puis je suis vraiment content de la subtilité de cet épisode-là, parce qu'on voit vraiment le spectre complet de la sexualité. Il y a une personne qui est asexuelle dans cet épisode, qui a peu de sexualité, mais qui vit avec... une personne qui a plus de besoins sexuels. Il y a vraiment... Oui, c'est souvent associé à la sexualité. Non, c'est pas la même chose, mais ça fait partie et c'est ça qu'on voulait montrer.
Mm-hmm. Ouais, c'est très réussi. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très subtil là-dedans. Absolument. Un autre aspect qu'on voit très bien dans la série, c'est l'aspect de la communauté. La communauté poly, les gens ont besoin de se rassembler entre eux. Il y a même un homme qui organise des soirées de rencontres, mais vraiment plus de réseautage, en fait, mm-hmm. entre des personnes polyamoureuses. Selon toi, pourquoi c'est important pour ces personnes-là de se rassembler?
Ben, c'est sûr que quand, comme je disais tout à l'heure, les clients qui viennent en thérapie qui savent pas qu'il y a d'autres personnes polyamoureuses, ils découvrent quelque chose, puis là, c'est un peu une porte ouverte à échanger, à apprendre, à découvrir comment ça se vit, etc. Puis aussi éventuellement à rencontrer des personnes. Donc, c'est assez logique qu'il y ait des communautés qui se créent avec des événements, mais après, il y a aussi des sous-communautés, il y a vraiment plein de groupes, d'événements de toutes sortes. Il y a aussi des gens qui vivent ça de manière très cloisonnée chez eux, sans avoir besoin de rencontrer d'autres personnes, à part leurs relations, bien entendu. Mais c'est un peu comme n'importe quel... groupe, minorité, etc. Ouais. Ça, c'est un sentiment d'appartenance, de sentir qu'on n'est pas seul, qu'on vit des défis, mais qu'on n'est pas les seuls à les vivre. De voir aussi qu'il y a des gens qui ont progressé beaucoup. Je le vois souvent, par exemple, en thérapie, il y a des gens qui viennent et ils vivent des défis que des polyamoureux débutants peuvent vivre, mais c'est normal. Mais c'est de voir qu'après après quelques temps, quelques mois, quelques années, on avance vraiment par rapport à ça. Ça donne du courage aussi de se dire que on peut avancer là-dedans, cheminer.
Mm-hmm. Puis sur le plan des enjeux, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que là, on voit des gens, par exemple, qui ressentent de la jalousie, qui vont réfléchir à quelle place la sexualité occupe dans leur vie, la famille. Mais c'est des enjeux que tout le monde vit aussi. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très normalisé de... Oui, bien sûr que les personnes polyamoureuses vont vivre des enjeux ou des défis, mais tout le monde vit des défis aussi. C'est pas propre à cette communauté-là, justement.
Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, le point commun souvent des personnes polyamoureuses, c'est qu'elles ont déconstruit un modèle qu'on voit tout le temps. C'est le mm-hmm. modèle souvent de nos parents, des œuvres de fiction, etc. Et elles ont la volonté, puis quand même le courage aussi, de se dire « je vais déconstruire ce truc-là ». Puis je vais voir, moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes clients en thérapie, c'est tu déconstruis quelque chose, puis tu le reconstruis. Si ça ressemble à ce que tu avais avant, comme un espèce de jeu de Lego, ben c'est très correct. Mais au moins, tu auras fait le travail de se dire, ben ça me convient, c'est ça qui répond à mes besoins, etc. Et puis là, quand on déconstruit, on peut se rendre compte qu'en fait, ça va être construit différemment. Mmh. Puis ça, c'est pour différents points, différentes choses, aussi bien la sexualité que le modèle amoureux. Et oui, c'est les personnes polyamoureuses ont fait ça dès le début, donc elles ont intégré ce principe de déconstruction, de petits pas de recul pour dire qu'est-ce qui me convient vraiment à moi, sans nécessairement se comparer aux autres, même si on le fait souvent quand même.
Ouais.
Mais c'est tout un travail de se dire, je vais vraiment regarder mes besoins à moi plutôt que de copier ce que je vois ailleurs.
Oui, parce que la pression de la société est tellement forte. Et ça, c'est intéressant parce que les gens, souvent, qui sont dans des communautés comme ça, qui sont marginalisés ou du moins qui ne sont pas dans la norme, se posent des questions identitaires et fondamentales que tout le monde gagnerait à se poser, justement, sur c'est quoi ma vision de la sexualité, c'est quoi ma vision de l'amour, quelle place ça occupe dans ma vie, tout ça. Et pourtant, ça revient peut-être au fait de ce que tu disais, que c'est des gens qui vont plus en thérapie, mais la société au grand complet gagnerait à se poser ces questions-là plutôt que de juste intégrer un modèle parce que c'est ce qu'on s'est toujours fait dire qu'il fallait faire.
Bien, de suivre le chemin qu'on nous montre, c'est de plutôt regarder c'est quoi notre chemin à nous. Ça demande un travail de le faire, puis c'est pour ça que c'est ce que je fais en thérapie avec les personnes que je vois, mais c'est aussi ce que la série propose, c'est de montrer... En fait, c'est ça. Si à la fin de la série, le spectateur peut se dire « qu'est-ce qui me convient moi ?» avoir juste un petit moment de réflexion, on a gagné le pari.
Est-ce qu'il y a une scène particulièrement forte pour toi dans la série qui te marque ?
Il y a les scènes de thérapie, comme tu l'as dit, c'est sûr qu'il y a vraiment des choses fortes. Puis par rapport à l'identité, puis par rapport au choix, il y a aussi des scènes de coming out, si on peut dire. Oui. Après, je ne sais pas si on peut utiliser l'expression coming out, ça ne se compare pas avec un coming out homosexuel, mais ça n'empêche qu'il y a des personnes qui ont encore du mal à affirmer qu'elles vivent ce modèle amoureux-là parce qu'elles ont peur des jugements. Parce qu'elles ont peur de ce que la société va penser, leur famille, etc. Donc, on voit dans la série des gens qui vont expliquer à leurs parents ou quoi qu'est-ce qu'elles vivent et comment ça se fait. Donc, c'est aussi des scènes très touchantes.
Ah, totalement. La scène, en tout cas, je veux pas non plus trop tout dévoiler, mais il y a une scène de coming out qui est absolument bouleversante. Absolument bouleversante.
Et encore une fois, c'est des gens tellement courageux d'avoir osé faire ça.
Ouais.
Le faire déjà, c'est quelque chose. Parce que j'en connais beaucoup des personnes polyamoureuses qui restent cachées parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça, parce qu'ils ont peur de recevoir du jugement ou plein d'autres choses. C'est correct. Après, peut-être elles ne sont pas prêtes, peut-être qu'elles vont le faire à un autre moment. Mais de le faire, déjà, c'est courageux, mais en plus de le faire devant les caméras, de montrer ça, c'est vraiment fort.
Oui, la vulnérabilité qui émanait de mon écran, en tout cas, était très, très puissante. Un mot de la fin, peut-être, pour convaincre les gens de regarder la série?
Dites-vous que c'est vraiment pour... ça s'adresse à tout le monde.
Ouais.
Que c'est des moments pleins d'émotions, des gens super attachants, puis des découvertes d'un modèle relationnel qui est peut-être pas connu. Si vous le connaissez, si vous êtes vous-même polyamoureux, ça va vous montrer que vous n'êtes pas seul, puis qu'il y a plein de défis et aussi plein de belles choses que les autres vivent. Puis si vous ne connaissez pas du tout ça, ça va vous permettre de découvrir un modèle qui a plein de belles choses à montrer et vraiment des personnes très touchantes à voir,
Et c'est présenté sans jugement, avec énormément de bienveillance. Donc moi, je trouve que c'est une série qui fait beaucoup de bien, en tout cas, pour l'avoir binge-watché d'un seul coup... Ça fait sourire.
Merci.
Ça fait réfléchir aussi.
Je suis content d'entendre ça.
Merci beaucoup, Christophe. Donc, la série est disponible sur UniTV à partir du 26 juillet.
Merci.
C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Play. E-boy.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.